je t'aime, je m'oublie. De toi, j'ai besoin de toi. Je brûle jour et nuit. De toi, j'ai besoin de toi. Je ne tiens pas à la vie. L'enfer ne m'effraie pas. Seul ton amour me remplit. De toi, j'ai besoin de toi.
Vous écoutez À l'école de l'Oraison, le balado des écoles carmélitaines d'Oraison du Québec, saison 2026-2027, intitulé Recueillement. Premier épisode, septembre 2026, intitulé Après les vacances, recueillir, se recueillir. Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle en ligne. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'Oraison sur le site www.lecarmel.org, section Frères, onglet Activités. Bonne écoute.
Jour et nuit, je pense à toi. De toi, j'ai besoin de toi. Qu'on me donne la mort, ma cendre. On la jettera, mais la terre criera encore. De toi, j'ai besoin de toi.
Regardez, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette première rencontre de l'école d'Oraison en ligne 2026-2027. J'ai choisi comme thème recueillement et comme chaque année, je commence avec vous, et puis on verra bien où ça nous mène. J'ai pas de plan précis. Cet été, j'ai pas écrit un livre que j'ai l'intention de vous débiter en petits chapitres. Mais très sincèrement, bien évidemment, c'est un sujet. C'est un peu un thème. C'est quelque chose qui m'a attiré, que j'avais envie de partager, mais que j'ai envie d'explorer avec vous en fait. Donc au fur et à mesure de nos rencontres, puis aussi au fur et à mesure des choses que vous pouvez me partager d'une façon ou d'une autre, soit en m'écrivant par après, soit parce que vous m'appelez, soit parce qu'on se rencontre dans un autre groupe, ou même pas dans un autre groupe, mais autrement dans la vie. Tout ça, ça contribue à ce que j'essaye de vous proposer. Et je voudrais poser une situation. La situation est la suivante, elle est tout à fait réelle, hein, évidemment. On est toute fin juillet, ça devait être le 30 ou 31 juillet, enfin le dernier vendredi du mois de juillet, je reviens du camp Beau Séjour où durant deux sessions de camp familial, je suis avec des familles et des jeunes pour 6 jours qu'on pourrait appeler des vacances chrétiennes en quelque sorte. C'est vraiment des vacances et puis je pense que c'est assez chrétien. Et je reviens, je suis seul dans ma voiture. Ce qui est rare, plusieurs d'entre vous le savent, en général j'ai des covoiturés avec moi, avec qui je parle, ou pas d'ailleurs, mais là je suis tout seul. Et étant tout seul, je fais ce que peut-être vous faites quand vous êtes tout seul dans votre voiture, je peux parler tout haut. Je peux me parler à moi-même. Et si je dis cela, c'est que se parler à soi-même, c'est quand même normalement un signe de bonne santé psychologique, hein, on se le rappellera tout de même. On peut se parler à soi-même, on peut aussi se parler fictivement, mais on n'est pas fou, on sait que c'est fictif, à des personnes avec qui on a un lien fort, notre ami, notre conjoint, que sais-je. On sait qu'il n'est pas là, hein, dans la voiture, mais on lui adresse la parole, c'est aussi normal, ça fait partie de nos capacités, de cette mystérieuse personnalisation, cette mystérieuse individuation de notre être et de la capacité à se représenter des vis-à-vis qui ne sont pas là, mais qui pourtant existent réellement. Il peut aussi s'agir de personnes défuntes. Et là aussi, on croit qu'on a un certain lien, un certain rapport avec les personnes défuntes, mais on a bien conscience que le défunt n'est pas dans la voiture. Et puis, on peut parler à Dieu. Et ça, c'est très gênant d'en parler en public, parce que quand on parle à Dieu, a priori, on est tourné vers lui et il n'y a personne d'autre dans le décor. Alors, j'irai pas plus loin, mais voilà, la voiture, ça sert aussi à ça. Or, je revenais, alors le camp Beau Séjour, c'est dans les bois francs, donc c'est un magnifique paysage, ça monte et ça descend. Et J'étais très marqué. J'étais dilaté, hein, ça c'est clair. J'étais dilaté par toute cette semaine de rencontres. C'est très simple, hein, c'est très très simple ce qu'on fait. Mais j'étais particulièrement dilaté à cause du contact, de la relation que j'ai avec les jeunes moniteurs. Hein, c'est des gars, des filles contre 15 pour les plus jeunes, là, ceux qui commencent, et 19-20. Là, on a deux jeunes qui sont un peu des leaders, qui ont 19-20 ans. Certains que je connais depuis déjà pas mal d'années. Et je suis, là j'y repense, je l'ai écrit, hein, je l'ai écrit quelques jours après, j'en ai écrit plusieurs pages. Je rentre, je suis très heureux, je suis profondément heureux dans ma voiture. Je me dis, waouh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces jeunes d'abord. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'eux qui se dégage, il y a une fraîcheur, il y a une vie, il y a un don de soi, parce que quand même... ça fait partie du deal qu'ils s'occupent quasiment à toute la journée des enfants. Ils sont présents, des enfants, des jeunes. Et puis parfois c'est des jeunes, parfois c'est des tout-petits. Ils sont vraiment disponibles, ils sont donnés, ils sont pleins d'imagination, pleins de créativité dans les histoires à imaginer, dans les costumes, les décors. C'est absolument, c'est vraiment très beau. Et puis je les vois grandir, je participe à leur formation au leadership chrétien et à leur vie spirituelle. Donc j'ai une petite participation là-dedans, et dans ce que je leur propose, je vois combien ils sont réceptifs et combien c'est pour eux quelque chose qui nourrit chez eux, pour la quasi-totalité d'entre eux, une fois déjà très consciente, très très vive, très libre, très très libre. Je pense entre autres à nos deux principaux leaders, c'est un garçon et une fille très très libre, vraiment, c'est ça. Je crois que la liberté, c'est le maître mot peut-être de nos existences, notre vie devant Dieu et avec Dieu, et je pense qu'ils sont plutôt bien partis. Et il me vient à l'idée, bah c'est pas une idée, c'est pas un concept, au contraire, cette situation m'apparaît soudain comme à recueillir. En réalité, je mesure au moment même où j'en prends conscience dans la voiture de toute cette chaleur, et puis cette... je vais y revenir parce que c'est très étonnant, c'est un peu troublant, cette amitié qu'ils ont pour moi. Je dis, moi je suis quand même, je passais 50 ans là, j'en ai pas 18, là, je suis plus capable de faire tout ce qu'ils font, et puis il y a beaucoup de choses que je comprends pas de leur vie. Mais je suis très étonné de l'amitié qu'ils ont pour moi. Là, ils viennent de me manifester juste avant que je grimpe au volant de mon char. Et je me dis, il me vient à l'esprit, il me vient au cœur qu'il y a là à recueillir. Il faut recueillir ça. Parce que ce qui m'arrive, ce qui m'arrive là, au moment même où j'en prends conscience, c'est-à-dire que dans la voiture, quittant le camp, rentrant au couvent, durant l'heure et demie de voiture, j'ai cette espèce de sas psychologique et spirituel, je suis tout seul, j'en profite, qui fait que je prends conscience de ce qui m'habite. Et je prends conscience de la valeur de ce qui m'atteint. Je prends conscience de la richesse de ces quelques jours. En passant, je fais une toute petite parenthèse, c'est le même jour que j'ai pris conscience de l'importance de la nostalgie. Parce que la nostalgie, elle est bonne. Elle est bonne parce que elle nous rappelle, elle nous fait sentir combien était bon, était bonne telle période, combien était bon tel souvenir vécu. Mais en même temps, elle nous fait sentir que c'est du souvenir, c'est pas de l'actualité. Et d'un certain point de vue, la nostalgie, si on accepte de la vivre, elle défend ce qui a été vécu, qui nous a donné de la vie, mais vers quoi il ne faut pas revenir. Parce que c'est maintenant qu'on a à vivre. Alors, je vais pas plus loin, mais c'est quelque chose que... J'en ai écrit quelque chose tellement ça me paraissait, c'est la première fois que ça me paraissait aussi clair, et c'est clair que la poésie aide beaucoup à saisir cela. Mais je ferme ma parenthèse, je reviens avec cela, et quelques jours après j'écris donc quelques pages sur tout cela, que j'ai reprise il y a une semaine, puis que j'ai reprise ce matin même, et je me dis vraiment... dans cette question du recueillement ou des recueillements, vous voyez que je l'ai mis au pluriel, hein, je m'explique là-dessus. Pourquoi je l'ai mis au pluriel ? Parce que je ne sais pas encore exactement combien de recueillements il y a. Je n'ai pas forgé un concept du recueillement, donc il serait au singulier, et duquel il s'agirait de s'approcher du mieux possible, ou qu'il s'agirait de vérifier dans nos vies. Pensant justement à cette situation, je suis beaucoup plus modeste, je me dis, d'après moi, il y a des recueillements. À défaut de pouvoir en dire plus, à défaut de pouvoir le dire mieux, pour l'instant, plutôt que de construire quelque chose d'un peu abstrait, ou plutôt que de vouloir ressortir, je ne l'ai pas encore fait, j'irai bien évidemment, j'irai reparcourir un peu ce que disent nos saints, Jean de la Croix et Thérèse d'Avila spécialement, du recueillement, el recogimiento en espagnol, en Espagne du XVIe siècle, c'est quelque chose d'important. Mais justement, plutôt que de partir soit d'un concept, soit d'une définition de Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, je préfère partir de situations, et les situations, elles sont toujours plurielles. J'en ai une, vous avez la vôtre. Et j'insiste, cette situation, pourquoi j'ai choisi celle-là? D'abord parce qu'elle m'est arrivée avec force, et en même temps, avec beaucoup de douceur, beaucoup de profondeur. Elle m'est arrivée avec beaucoup de richesse, parce que c'est vraiment c'est une variété de visages qui me vient. Et immédiatement, alors là, j'irai pas, c'est ma vie, mais enfin, je peux quand même vous en indiquer le seuil. C'est que c'est clair que ça m'est venu dans un échange avec Dieu, finalement. Il m'est pas venu à l'idée, alors que ça m'arrive, hein, il m'est pas venu à l'idée de commencer une conversation, de susciter fictivement l'un ou l'autre de ces jeunes. Ce qui m'arrive de faire, hein, lorsque je pense à eux, je me dis, waouh, dis donc, mon cher Alexis, ma chère Edith, ça tourne dans ma tête pour essayer de mieux les comprendre, mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas vers eux que j'étais tourné. Ce qui me laisse aussi penser que le recueillement, du moins, là, quelque chose se passait qui était déjà en train de se faire. J'avais sous les yeux un recueillement en train de se faire. J'avais sous les yeux un acte de se recueillir qui était en train de se faire, sans effort, sans aucun effort, avec le sentiment que ce que j'engrangeais là était d'une très grande richesse, d'une très grande force, d'une... Chacune d'entre vous peut tout à fait mesurer ce genre de moment où on réalise que ce qu'on vient de vivre, on le savait déjà en le vivant, mais on le sait quand on le quitte, que c'est chargé, c'est fort, c'est vivant, et ça va rayonner encore longtemps en nous. Et disant cela, je voudrais ouvrir mon évangile chez Luc, au chapitre 12e. Ça, c'est une... J'en ai pris des notes dans un autre de mes carnets, que je tiens dans ce sens-là, parce que ça s'appelle Lectio pleine page. Alors, ça se prend dans l'autre sens. On ne sait jamais où ça va, les Lectio pleine page, mais c'est toujours des choses intéressantes. J'ai fait un petit bout de Lectio au bord du lac sur Luc 12, versets 16 à 21, que je vous lis. Il y a une coupe, bien évidemment, donc « il », c'est Jésus. Et il leur dit cette parabole. « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Parabole un peu curieuse, vous allez me dire, pourquoi tu nous sors ça? Parce que, alors, de fait, une lecture en pleine page, ça permet de partir dans tous les sens. Il y a plus de place. Or, il y a beaucoup de choses qui ne nous intéressent pas pour ce soir, mais il y a une première chose, c'est que la terre dont il s'agit est une terre qui est fructueuse, C'est un homme, si je traduis le grec de la manière la moins maladroite possible, c'est un certain homme dont la terre est productive richement. Dont la terre est productive richement. Et ça, c'est important parce que on n'est pas en train de parler d'un homme qui a misé sur l'entrée en bourse de SpaceX, puis qui s'en est mis plein les poches. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a fait une super opération boursière, ou de quelqu'un qui a tout simplement revendu un bien qu'il avait légitimement acquis, mais on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui ne sait pas où mettre son argent à la banque. On est en train de parler de quelqu'un qui a une terre qui est fructueuse. C'est pas lui qui est fructueux, c'est sa terre. Ça, souvent, on déforme un petit peu les choses. C'est une lecture récente qui m'a rendu sensible à cela. Lorsqu'on dit que la terre est productive, on lui applique ce qui est de nous. Nous, nous sommes des êtres productifs. On est d'ailleurs de plus en plus des êtres exclusivement productifs. Mais la terre, elle n'est pas d'abord productive. Elle ne produit pas un produit. Elle mûrit un fruit. Et c'est un petit peu différent. Donc la terre, elle est fructueuse, elle porte du fruit. Et cet homme ne sait pas quoi faire de cette abondance de fruits. Alors il démolit ses greniers. C'est intéressant parce que l'un des mots utilisés, c'est hypothèque. Ça a donné hypothèque. Donc notre monsieur, comme il sait que le grain, ça peut pourrir, il démolit ses greniers, il en bâtit des plus grands. Et puis il y a cette intervention tout à fait étonnante, parce qu'il n'a rien fait de malhonnête, il n'a rien fait d'absurde. Puis il y a cette intervention, il dit « T'es fou parce que cette nuit, Dieu te redemande ta vie. » Il n'y a aucune raison que Dieu lui redemande sa vie sous prétexte qu'il ait fait une bonne récolte. Hein. C'est pas tout ça, c'est juste que la mort, ça arrive. On le sait. On le sait. Et ça n'arrive pas toujours à la fin de la vie, malheureusement. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, et puis c'est une parabole qui est encore plus étonnante qu'il n'y paraît à cause de là où elle est située, et puis finalement on se pose beaucoup de questions. Ce que je voudrais garder, c'est ce rapport à la vie. Parce que cet homme, il a conscience que le grain, il faut le garder d'une année sur l'autre, en plus on est à une époque où on en semence l'année suivante avec une partie du grain de l'année précédente. Donc dans le fond, il est somme toute assez avisé, cet homme-là, parce que la terre a été productive et qu'il veut faire droit à cette productivité de la terre, à ce fruit de la terre, hein, c'est encore mieux de dire fruit, ce fruit de la terre, il veut pas le perdre, il veut le mettre en le grain, ça se garde dans certaines conditions et dans d'autres ça se perd, donc il veut le garder. Et alors évidemment là je tire un petit peu de mon bord, mais je repensais à ma situation de départ. Qu'est-ce que j'emporte ? Qu'est-ce que ces jeunes m'ont donné ? Ces jeunes m'ont donné des souvenirs. Des souvenirs qui sont encore frais, qui s'ajoutent à des souvenirs qui datent de l'année d'avant, de l'année d'encore avant. C'est ma sixième année. Hein. Donc je commence à avoir les souvenirs qui s'empilent. Ils m'ont donné des souvenirs. Ils ont contribué à ce que des souvenirs se forgent. Et que dans le recueillement que j'ai vécu à ce moment-là, et puis qui m'a habité dans la suite, hein, parce que durant plusieurs oraisons, les jours suivants, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça m'a beaucoup habité dans l'oraison. Mais voilà, je pense qu'à un moment, il y a une transformation, et on peut aider à cette transformation, à ce passage, parce que ce qui est en jeu est multiple, est riche, faut pas trop chercher à le défaire, parce que c'est un ensemble. Il y a les souvenirs, mais il y a aussi, au travers des souvenirs, le rappel que le souvenir pointe vers une expérience de vie. J'en ai pas forcément pris conscience, mais à tel ou tel moment dans le camp, faire quelque chose avec ces jeunes, préparer la soirée taisée, leur apprendre un chant, leur proposer un atelier spirituel, écouter l'un ou l'une d'entre eux qui vient me confier quelque chose, ou me demander quelque chose, ou que sais-je. Il y a de la vie qui passe. Il y a un contact de vie. Mais dans le fond, ces jeunes, ce qu'ils m'ont donné, c'est comme un contact qui suscite en moi de la vie. Je ne leur ai rien pris, et je n'ai rien à leur prendre. Je n'ai pas à prendre chez eux, quelque chose qui n'appartient qu'à eux. C'est pour ça que je faisais ma petite parenthèse sur la nostalgie. Je n'ai pas à les fixer dans ce qu'ils sont dans le souvenir et qui m'a apporté à moi. C'est pour ça que ça nous fait peut-être basculer de recueillir à se recueillir. Je veux dire par là que recueillir, c'est encore aller chercher quelque chose qui est bah, comme ses fruits, vouloir les recueillir, vouloir les garder, et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais ce qu'on recueille est au service de quelque chose de plus profond, ce qu'on recueille est au service de la vie. Et je crois qu'il y a un moment où il faut laisser partir les souvenirs qu'on a recueillis, les laisser vieillir, les laisser pas forcément se flétrir, mais je vous l'ai déjà dit, hein, dans mes bibles par exemple, je suis sûr que là j'en ai un. Non, ça c'est une prière, ça c'est pas une bible. Tiens, voilà. Un faire-part d'un petit garçon qui est né il y a 10 ans, donc a priori il ressemble plus à ça. Les souvenirs qui, eux, sont emportés hein, par le flux du passé, ces souvenirs, ils ont un... Bon, ils ont beaucoup de valeur, bien évidemment, mais ils ont une valeur particulièrement dans le fait qu'ils pointent vers la vie qu'ils ont suscitée en nous. Et que se recueillir, c'est peut-être se retourner, ça peut être une façon de se recueillir, ça peut être une valeur du recueillement, c'est peut-être se retourner vers la vie qui en moi est suscitée ou ressuscitée par ces jeunes. Encore une fois, ils ont l'âge d'être... Si j'avais eu des enfants, mes enfants auraient eu leur âge. Donc je ne peux pas jouer aux jeunes. On le sait tous et toutes, hein, quasiment beaucoup d'entre vous, sinon tous, là, ce soir, vous êtes des parents, voire des grands-parents. Nous, les adultes, on n'a pas à jouer aux jeunes. Donc on n'a pas à dérober aux jeunes leur jeunesse. Leur jeunesse, elle n'est pas là pour nous rappeler de la nôtre. Elle est là pour nous faire vivre notre vie actuellement. Et pour, elle nous apporte quelque chose dans notre vie actuelle. Et se recueillir, c'est peut-être accepter aussi, sereinement, parce qu'il y a quelque chose de très heureux là-dedans, accepter cette petite distance qui se crée entre les souvenirs qu'on a recueillis, mais qu'il faudra laisser. En tout cas, ils vont vieillir de même, les souvenirs. Ils vont vieillir de même. Et ce qui, en nous, s'est manifesté de vie, a été suscité de vie, et, une fois encore, a peut-être été ressuscité. Mon jeu de mots est un petit peu lourdingue, hein. Il y a résurrection dans tout ça, mais je crois qu'il y a quelque chose là d'important. Et c'est important parce que vivre cette petite distance, c'est s'assurer que mon recueillement n'est pas à l'image de cet homme qui, peut-être son tort a-t-il été de vouloir tout garder, de vouloir ne rien perdre jusqu'au dernier grain. De ne pas voir plus loin que les grains sont donnés, mais la moisson, le fruit de la terre, c'est dans un flux de vie. Rien n'est jamais sûr, rien n'est jamais possédé. La seule chose qui, non pas qui soit possédée, mais qui nous possède, c'est la vie qui nous est donnée et qui est remanifestée en nous comme nous étant donnée. Se recueillir, c'est... Ça peut être, hein, c'est certainement pas une définition que je donne là, mais en l'occurrence, à partir de la situation que je vous évoquais, se recueillir, c'est peut-être vivre pleinement, vivre heureusement ce détachement intérieur pour laisser vivre, bah, en l'occurrence ces jeunes, pour les laisser vivre, je vais les retrouver dans un an. Bah, pas tous, certains ne reviendront plus comme animateurs, mais les autres, par exemple ceux qui n'avaient que 15 ans, les deux gars filles super timides de 15 ans, je vais les retrouver dans un an, bah, ils auront un an de plus. La vie grandit. Donc laisser vivre, laisser aller, se détacher et se recueillir pour être un vivant qui laisse la place aux autres vivants, qui leur laisse de la place et qui leur sait gré d'avoir reçu d'eux de la vie. Et cela, il me semble que faisant cela, alors ça je ne l'avais pas prévu, mais ça me vient en vous le disant, il me semble, on l'a déjà évoqué, il me semble que il y a peut-être quelque chose qui nous met un peu à l'image de ce que Dieu fait le septième jour de la création. Le septième jour de la création, c'est pas Dieu qui dit « Hey, ça va faire, là, je pense que j'ai suffisamment travaillé, enfin que le jour du Shabbat, vous ne me dérangez pas, les prières reçues le jour du Shabbat seront traitées le lendemain à partir de 9h. Non, je pense que, et ça c'est quelque chose qui est très fort dans tout un courant de théologie juive, le retrait de Dieu. si je me souviens bien, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. C'est-à-dire cette idée que Dieu n'a pas à empiéter sur la terre des vivants qu'il a donnée aux vivants. Et que Dieu goûte quelque chose de la vie des vivants, hein, il s'exprime combien c'est bon, pas seulement au sujet des êtres, de l'être humain qui vient de créer homme et femme, mais de la totalité de la création, combien c'est bon. C'est très bon même. Et que il y a... Alors, je voudrais plutôt dire que le détachement qui est inscrit, qui donne de la valeur à se recueillir, qui n'est pas un retranchement en soi, qui n'est pas une captation en soi de la vie, mais qui est une reconnaissance en soi de la vie qui nous vient d'un autre vivant, et je n'ai pas besoin de mettre la main sur l'autre vivant pour goûter cette vie, elle est peut-être, il est peut-être ce geste, ce mouvement de détachement dans le recueillement, il est peut-être quelque part à l'image de Dieu qui... Alors évidemment, là je le retourne, et puis c'est beaucoup d'hypothèses que j'aimais là, d'un certain point de vue, se détacherait de sa création, non pas qu'il s'en intéresserait plus, mais pour que sa création soit vraiment vivante, qu'il n'ait pas à mettre la main dessus. Dieu n'a pas besoin de posséder ce qu'il a créé. Dieu reçoit suffisamment de vie, hein, melo haaretz kebodo, un remplissement de la terre, sa gloire, dit Isaïe au chapitre 6e. C'est pas, la gloire, c'est pas quelque chose de plus chez Dieu. C'est le fait que la terre soit melo haaretz, ça je le tiens à notre prof d'hébreu, ça. Le fait que la terre soit remplie, c'est ça la gloire de Dieu. Le fait que la terre soit remplie de vie. Bon, ok, aujourd'hui, avec nos péchés personnels et collectifs, c'est plutôt. Il y a aussi, c'est pas mal rempli de mort. Il reste que c'est quand même sur fond d'une terre qui est remplie de vie et la gloire de Dieu est là. Et je pense que dans le recueillement que j'évoque ce soir, il y en aura d'autres recueillements, à partir de cette situation. Il me semble en avoir trouvé la vraie valeur lorsque j'en suis arrivé là, à me dire que chacun de ces jeunes dont le visage est très très présent à ma mémoire, hein, et revient très facilement durant l'oraison, eh bien, ces jeunes, par-delà justement leur visage, qui est déjà un souvenir, parce que leur visage a déjà changé depuis 2 mois, ils sont les vivants qu'ils sont, et dans mon recueillement, je leur sais gré. Je rends grâce de ce qu'ils m'ont apporté de vie, incluant de l'amour qu'ils ont envers moi, qui est bien la chose la plus imméritée qui soit. C'est la chose la plus imméritée qui soit. Et la chose la plus difficile dans nos vies, c'est d'accepter de se laisser aimer, que ce soit par l'autre, le conjoint, l'enfant, le parent, l'ami proche, ou Dieu. On se le dit souvent, mais on le sait. J'y ai pensé tout à l'heure en me disant ça, en me disant « mais est-ce que j'irai jusqu'à évoquer cela ?» Mais je pense que oui, c'est important. Et que le recueillement ne nous soustrait pas à l'amour de l'autre, mais le recueillement nous fait mesurer combien l'amour de l'autre établit une relation dans le respect de sa vie et de la mienne, et dans la reconnaissance que, certainement de manière non volontaire, non pensée, non programmée, il m'apporte de la vie, ou plutôt il suscite, il ressuscite, et je pense que Dieu passe par d'autres pour faire des œuvres de résurrection en nous, il ressuscite ce qu'il y a en moi, ce qu'il y a en nous de vie.
Je laisse l'amitié au soufi, au dévot le paradis. Besoin que de la nuit, de toi, j'ai besoin de toi. Je m'appelle Jonas.
Vous avez écouté la première rencontre des soirées proposées dans le cadre de l'école d'oraison en ligne et intitulée Recueillement. Pour participer à la soirée qui comprend un temps de prière en commun, puis un enseignement suivi d'un temps de questions, écrivez-nous à École Oraison Zoom, tout attaché, écoleoraisonzoom@commercial.gmail.com. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'oraison animées par la famille du Carmel sur le site www.lecarmel.org. La poésie « De toi, j'ai besoin de toi » du mystique soufi Younous Emre est mise en musique et interprétée par notre frère Pierre Eliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.